time will come up when the winds will stop and the breeze will cease.
Cold beneath my skin and they're trembling with rage.
Oxford town,
I'll make you wild.
Everybody's got the head bowed down. Sun don't shine.
Bonjour à toutes et à tous. Dans le cadre de ces projets de recherche sur la dictée, l'oralité et les dispositifs d'enregistrement de la voix, le laboratoire sur les récits du soi mobile, affilié au département de littérature et de langue du monde de l'Université de Montréal, présente Bob Dylan, De l'enchantement à la cruauté, un balado en 6 épisodes. Si, les dernières semaines, on a pu parcourir l'œuvre de Dylan à vol d'oiseau, en s'arrêtant d'abord sur le début de sa carrière dans les années 60, puis la semaine dernière par une exploration approfondie d'une de ses plus récentes chansons, aujourd'hui, on va plutôt s'attarder sur différentes postures d'écoute, sur des cadres d'analyse qui nous permettent de concevoir une relation différente aux chansons et aux textes de Dylan. Comment se lier à l'œuvre de Dylan à partir de nos postures individuelles, diverses, parfois obliques? Et quel lien peut-on développer en confrontant le travail musical à nos propres postures? Comment discuter d'une intelligibilité dans la musique au-delà de la voix, au-delà du langage? Comment un texte musical module son sens au fil de ses reprises? Mon nom est Thomas Filto. Aujourd'hui, je suis accompagné de Rebecca Leclerc.
Allô?
Rebecca Leclerc est compositrice de musique et étudiante au doctorat en littérature comparée. Sa thèse consiste en une analyse de la place du vêtement et de ses processus de fabrication artisanale dans la philosophie. Elle s'intéresse à la présence, métaphorique ou non, du vêtement dans certaines œuvres données, dans une perspective écoféministe et psychanalytique. Elle travaille présentement de concert avec le poète Colin sur la composition et la direction artistique du conte Morico.
Mortrico.
Mortrico. Un conte musical enregistré avec orchestre de chambre au studio Piccolo à Montréal. Alors, bonjour Rebecca, avec toi on va explorer en première partie d'émission la possibilité d'un angle féministe quant à l'œuvre de Dylan en explorant différentes versions de la chanson Just Like a Woman.
Mm-hmm.
Bonjour Rebecca.
Bonjour Thomas, on se lance?
Avant on va peut-être présenter Glenda qui se joint à nous également. Glenda Ferberet qui est une étudiante à l'Université de Montréal, auxiliaire de recherche et co-chargée de projet pour la programmation du CELCP et coordonnatrice du volet cubain pour un projet de recherche sur le récit de soi auprès des adolescents. Elle est diplômée en lettres à l'Université de La Havane. Elle a commencé à se passionner pour les échanges multiculturels dans son double master en littérature française entre la France et l'Italie, qu'elle a conclu avec une thèse sur le motif du franchissement dans les romans de Michel Houellebecq. En automne 2021, elle déménage au Canada pour continuer sa recherche du doctorat. Elle étudie la relation entre la littérature et l'espace afin de réfléchir comment des auteurs contemporains se servent des mots et des imaginaires culturels pour briser des frontières, pour définir les liens communautaires de leurs espaces de vie. En deuxième partie, Glenda, on va pouvoir explorer avec toi l'enjeu linguistique de l'œuvre de Dylan en approfondissant ta relation à l'œuvre du chanteur en tant que locutrice étrangère de l'anglais.
Oui, c'est ça. Bonjour.
Bonjour Glenda. Alors merci beaucoup à vous deux de vous joindre à nous pour observer l'œuvre de Dylan à partir de différentes perspectives situées qui questionnent notre relation aux chansons de Dylan, qui vont peut-être tenter de débalancer la posture de génie prophète sur laquelle s'assoit la plupart du travail académique autour de son univers. D'abord, Rebecca, comment est-ce que tu conçois la possibilité d'une lecture ou d'un engagement féministe face à l'œuvre de Dylan, alors que plusieurs de ses textes ont été largement critiqués quant à une misogynie latente? Où est-ce que tu situes cet engagement? Comment est-ce que tu peux l'apporter?
Justement, moi, ce qui m'a intéressé par rapport à l'œuvre de Dylan, puis à un féminisme possible, c'est pas tellement par rapport à ses paroles, qui vont toujours être sujettes à plein d'interprétations, mais à tout ce qui pouvait entourer la chanson. Et justement, en m'intéressant à plein de reprises qui ont été faites, je me suis rendu compte que la voix, ou disons la personne qui interprète, pouvait venir changer le sens de ces paroles-là qui ont été maintes fois critiquées. Puis là, si j'ancre mon propos dans un truc plus concret, j'ai pensé qu'on pourrait aborder aujourd'hui la chanson « Just Like a Woman », qui est une chanson qui va paraître en 1966 sur son album « Blonde on Blonde ». Et la chanson est peut-être la plus emblématique là, des critiques qui vont être formulées à son endroit pour sexisme et misogynie. Il y a la journaliste Marion Mead, par exemple, qui écrit dans le New York Times en 71 « There's no more complete catalogue of sexist slurs ». Et elle considère que Dylan définit les traits naturels des femmes comme étant les suivants: l'avidité, l'hypocrisie, le chialage et l'hystérie. Donc déjà, ça fait un peu sursauter. Il y a des critiques, tous des hommes, que j'ai trouvés, qui vont rétorquer à cette journaliste-là en affirmant qu'il n'y a pas un seul moment dans la chanson « Just Like a Woman » où on ne sent pas l'amour de Dylan. Ça m'a bien fait sourire, parce que évidemment ça ne veut rien dire. L'amour, c'est pas une composante vocale ou sonore, encore moins une excuse qui justifierait l'absence ou non de sexisme. Fait que si on se penche sur le refrain de la chanson, que je peux vous dire un peu, mais « She takes just like a woman. Yes, she does. She makes love just like a woman. Yes, she does. And she aches just like a woman. But she breaks just like a little girl. » Donc, vous voyez que le texte est vraiment simple. Puis, la musique est super envoûtante. Puis, j'ai parlé en classe avec les élèves d'un truc que les chansons de Dylan ont très souvent, puis qui est un espèce de caractère super familier, où on a l'impression d'avoir déjà entendu les chansons mille fois. Il y a quelque chose de vraiment réconfortant dans la musique de Dylan, qui nous fait sentir à la maison presque. Puis c'est quand même drôle quand on superpose ce sentiment de familiarité avec des paroles qui sont, disons, problématiques, là, pour utiliser ce mot qui a un peu le dos large, mais je pense que c'est quand même le cas. Puis le narrateur, pendant la chanson, parle à cette femme-là, il parle de la femme, parce que c'est le pronom « she » qui est utilisé, jusqu'à la fin où il y a un changement au-dessus. Puis ça, c'est quelque chose que les musicologues ont souvent relevé comme qui fait un effet vraiment efficace puis qui a clairement contribué au succès de la chanson. Évidemment, la phrase « just like a woman » est stéréotypée et beaucoup ont dit qu'elle était même sexiste, parce qu'elle est super essentialisante et que ça suggère tout le temps que les femmes feraient les choses différemment. Il y a justement la phrase « makes love just like a woman », donc « faire l'amour comme une femme », c'est des propos essentialistes, etc. Il y a aussi d'autres gens qui ont parlé de cette chanson-là comme une chanson qui n'était pas du tout sexiste, qui montrait la femme sous un jour super favorable. Donc, tous les discours se valent sur ce texte-là qui semble renouveler sans cesse des interprétations toutes plus différentes les unes que les autres. Puis, c'est là que ça commence à être intéressant pour moi parce qu'en faisant mes recherches, j'ai découvert que selon les versions, parce que vous savez probablement à ce stade que Dylan rechante sans arrêt ses chansons, que selon la manière dont il chante, il y avait des réceptions différentes. Donc, si on prend la version de laquelle je parlais, Dylan a une voix super molle, c'est le terme que j'ai utilisé aujourd'hui. C'est presque parlé, c'est un peu paresseux au niveau vocal, donc il est comme un peu pour l'imiter un peu mal, mais vous voyez le genre. Puis il y a comme quelque chose de presque adolescent. Il y a une distance par rapport à sa voix qui donne vraiment l'impression qu'il est indifférent face à cette protagoniste féminine dans la chanson. Fait que c'est vraiment pas difficile, quand on entend cette version-là, de croire que le propos est sexiste et, disons, mal intentionné. Tandis que si on va sur une autre version, qui est la version, une version live qui a été endisquée toujours en 1966, c'est drastiquement différent. La voix est vraiment mélodieuse, tendre. Elle est mise à l'avant. Donc, quand on l'écoute avec des bons écouteurs, on est vraiment dans un registre de confidentiel qui donne l'impression soudainement que Dylan est super attentionné, qui est affectueux, respectueux. Il semble vraiment sensible. Puis il y a presque un ton conjugal dans sa voix. Donc, il semble vraiment s'adresser avec respect à une autre protagoniste. Puis ça a vraiment changé la réception. Donc, selon la manière qu'il chante, il va y avoir une réaction différente dans le public. Puis je trouve que même aujourd'hui, on le sent ça quand on écoute, même en tant que, bon, disons, féministe, je suis capable d'admettre cette espèce de différence qui est créée par la voix. Puis c'est un peu à partir de là que ma réflexion féministe a débuté, là, disons, par rapport à cette œuvre-là.
Nobody feels any pain. Tonight as I stand inside the rain, everybody knows that baby's got new clothes. But lately I see her ribbons and her bows have fallen from her curls. Just like a woman. Yes, she does. She makes love just like a woman. Yes, she does. And she aches just like a woman. But she breaks just like a little girl.
Je trouve ça vraiment intéressant de voir comment le texte, puis les textes de Dylan en général, mais le texte musical est un objet extrêmement malléable, vraiment disponible à la fois à des tensions d'interprétation, une façon de l'interpréter qui peut être très très différente d'une personne à l'autre, mais aussi comment l'interprétation de l'artiste peut vraiment jouer sur la signification et sur comment on peut comprendre le texte de la chanson. Pour moi, quand j'écoute la version live de 66, qui, du moins que Dylan a interprété seulement quelques mois, je crois, après la première sortie dans l'album Blonde on Blonde de cette chanson-là, j'ai l'impression déjà qu'on est dans une logique de reprise, juste parce qu'il y a eu une attention peut-être plus grande sur la musicalité qui était propre à la chanson, puis qu'on arrivait seulement à deviner derrière la récitation. Puis déjà, juste par le fait qu'il y a une forme de relation seulement musicale ou avant tout musicale à la chanson, c'est comme si le sens prenait un peu le bord. Puis j'ai l'impression, en tout cas pour moi, c'est ce qui fait en sorte que c'est peut-être moins un discours immédiatement violent qu'on peut ressentir dans cette version-là.
Ouais, absolument. Puis c'est faut dire aussi que la première version, tu sais, la Just Like a Woman qui est parue sur Blonde on Blonde a été un vrai hit radio. Ça a été vraiment 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 populaire. Puis je pense qu'il y avait ça aussi dans l'arrangement de la première. Il y avait ce côté radiophonique qu'il fallait mettre dedans. Puis ça crée le côté efficace, super payant, super hooky, qu'on a envie de réécouter la chanson, mais ça crée définitivement une distance avec le propos de la chanson. Puis il y a beaucoup, beaucoup de versions qui existent, là, d'ailleurs, par rapport à cette question d'interprétation. Il y a une version de Nina Simone, je sais pas si tu l'as écoutée, qui est incroyable. Puis juste par la voix... Juste parce que, je ne sais pas si c'est parce que c'est une voix de femme, mais aussi c'est l'intention derrière la voix, on a accès à un tout autre sens, encore une fois, de la chanson. Là.
Oui, puis il y a quelque chose d'intéressant, puis que j'aimerais peut-être qu'on approfondisse un peu. Puis d'abord, dans la version originale de Dylan, qui est ce glissement-là entre le « she » et le « you », qui se fait à la toute fin. Je ne sais pas toi comment tu l'interprétais ou comment tu le voyais.
C'est peut-être parce que j'ai lu des analyses de musicologues dessus, mais je pense que j'ai un peu une décollée préconçue de ça. Puis je pense que c'est vraiment un effet comme un effet théâtral presque. Là. Où soudainement, j'imagine dans ma tête, qu'est-ce que je vois, c'est un projecteur qui se revire, qui se braque soudainement sur quelqu'un. Donc tout ce temps depuis le début de la chanson, je savais exactement de qui je parlais. Je savais à qui je parlais en fait. Moi, ça me fait cet effet-là, fait que ça surprend. Parce que le chi a quelque chose de vraiment. Un peu, c'est quoi le mot que je cherche? Désincarné, si on veut, on ne sait pas trop c'est qui. Soudainement, dans un tu, il y a quelqu'un devant lui, tu sais. Je pense que ça crée un effet théâtral, ouais.
Ah oui, ben je suis tout à fait d'accord. Puis je trouve qu'il y a quelque chose aussi qui se dévoile au moment où on comprend que c'est une adresse. Puis c'est le fait qu'il n'y a pas de réponse.
Oui, c'est vrai.
Ce qui est tout à fait présent dans toute forme d'écoute musicale, je trouve, en particulier. On est vraiment dans une réception d'une voix, mais dans une impossibilité de répondre à celle-ci, surtout dans ce genre de chanson, j'allais dire chanson d'amour, mais c'est pas exactement ça. puis, quelque chose de super intéressant dans la version de Nina Simone, c'est qu'elle le change, ce glissement-là. Le « she » devient pas « you », mais devient « I ». Puis là, pour moi, à ce moment-là, il y a complètement cette chanson est complètement déconstruite, parce qu'on n'est plus dans une adresse.
Absolument.
Puis c'est comme s'il y a de multiples voix, de multiples couches de voix qui sont celles du chanteur original, de Nina Simone qui le reprend et qui le renverse. Puis finalement, une forme de confidence qui se fait à la toute fin.
Absolument. Il y a une élève, aujourd'hui j'ai présenté ces idées-là à une classe, puis il y a une élève qui a soulevé l'idée absolument géniale que la version de Nina Simone, ce serait en fait cette adresse-là. C'est comme si elle prend dans sa voix ce poids-là, de ce « you » de la version de Bob Dylan. Nina Simone le transforme dans un « je », puis elle donne une voix, parce que je leur parlais d'agentivité, justement, puis de cette possibilité-là de prendre action, si on veut, sur une posture souvent objectifiée. Puis pour elle, Nina Simone, c'est ça qu'elle faisait. Elle donnait une voix à cette femme qui est tue dans la version originale. Je trouve ça vraiment beau de le voir comme ça. Puis on a écouté aussi une version de Charlotte Gainsbourg qui est très, très fragile, très, très belle aussi, qui donne un tout autre sens.
Oui, dans cette version-là, c'est vraiment presque un chuchotement où on revient presque à, disons, une forme de récitation qui était juste à la limite du mélodieux.
Ouais.
Mais là, peut-être que c'est moins dans une forme d'intimité comme c'est présent chez Nina Simone, mm-hmm. dans une forme de ressenti, où cette chanson-là, elle est, c'est comme si elle trouvait écho en elle. Mm-hmm. Il y a davantage une idée de récitation, mais encore une fois, une forme d'adresse qui relève davantage de l'intime que de celle d'une discussion entre Dylan et quelqu'un d'autre, mm-hmm. sur une femme qui se situerait ailleurs, voilà. où il y a un objet. Il y a davantage, c'est ça, une idée d'intimité qui est très présente dans la version de Charlotte Gainsbourg.
Absolument. Une autre chose qui m'intéresse, qui je pense qui est important de garder en tête, c'est que là, on le montre bien que le texte de la chanson peut, selon la voix qu'il chante, selon le contexte, etc., il va prendre un sens qui va toujours varier. Puis on peut débattre de ce sens-là, on peut réinterpréter, on peut faire qu'est-ce qu'on veut, en fait, avec les paroles qui sont finalement de la littérature, tu sais. Puis pour moi, il n'y a pas de sens qui existe dans le texte. On ne peut pas deviner son sens. Tandis que si, en fait, ce que j'ai fait, moi, c'est de regarder tout le contexte de production de cette chanson-là. Puis là, il y a peut-être plus quelque chose de l'ordre du sexisme qui apparaît. Parce que si on se penche sur le contexte de production de la chanson, c'est tout des hommes, c'est juste des hommes qui jouent, c'est juste des musiciens. C'est toute l'équipe de production, de prise de son, etc., est constituée d'hommes. Donc, Just Like a Woman est le produit d'une époque complètement machiste, où le patriarcat domine. Fait que ça, je trouve ça intéressant de le mettre un peu en dualité avec le texte qui, lui, va pouvoir prendre plein de visages différents.
Puis pourtant, une des choses dont on a discuté peut-être un peu... avant l'émission, c'était que, du moins, il y a quelque chose qui se partage entre la voix de Dylan et la voix chantée. Du moins, et c'est très difficile c'est facile de rétorquer qu'il y a une différence entre le personnage de Dylan, mm-hmm. celui qui discute de cette femme-là dans cette chanson-là, et la vraie voix de Dylan en tant que personne, mais qui avait une forme de proximité ou une indifférenciation qui était dans la voix.
Absolument. En
fait, c'est toujours la même voix, même voix changeante, qui peut interpréter différemment d'une interprétation à l'autre, mais il y a quelque chose qui se partage. Puis à ce moment-là, je trouve que c'est intéressant de générer un mouvement d'interprétation qui ne cherche pas à voir comment la biographie d'un artiste peut se différencier de son œuvre, mm-hmm. mais comment elle peut, au contraire, générer des expériences d'écoute qui les rapprochent.
She takes just like a woman, yes, she does, and she makes love just like a woman, and she aches just like a woman, but she breaks like a little girl. Nobody feels any pain. Tonight, as I stand inside the rain, everybody knows
baby's got new clothes.
Dans les réinterprétations à la fois de Charlotte Gainsbourg, à la fois de Nina Simone, comment est-ce que tu vois cette possibilité de renversement de ce jeu de ventriloquie, de passation de voix, aussi qui est très présent. Je pense que la chanson de Charlotte Gainsbourg, elle l'avait fait pour le film de Todd Haynes, qui est I'm Not Here.
Ouais.
Puis là aussi, il y en a un autre renversement.
Oui,
dans
absolument.
L'interprétation de Kate Blanchett, par exemple.
Absolument.
De
ouais.
Mais je trouve qu'il y a vraiment quelque chose de particulièrement intéressant dans ces renversements et réinterprétations.
Mm-hmm. On soulevait aussi tout à l'heure que Bob Dylan il est reconnu pour un peu ce côté-là, ce côté furtif de sa personnalité où il est jamais lui-même, finalement, comme si un artiste était parfois lui-même. Je sais. Fait que je trouve ça intéressant aussi d'avoir de penser à Bob Dylan dans cette optique-là, mais il y a beaucoup de personas, il y a beaucoup d'alter ego, il y a beaucoup de figures en lui qui existent et qui sont souvent en dualité. Puis on va parfois défendre certaines de ses paroles en disant « Ah, mais ça, c'est tel persona, c'est tel blabla. » Puis il y a une étudiante aujourd'hui qui posait cette question-là, mais il n'y a pas de persona femme. Pourquoi? Puis dans le film, c'est ça qu'ils font. T'sais, ils disent, ben ils créent cette figure-là féminine dans Bob Dylan qui, clairement, existe probablement. Mais j'ai de la misère à avoir une lecture aussi tranchée, aussi homme-femme dans sa persona. Puis je pense qu'il y a une lecture plus fluide pour être vraiment intéressante là, de comment son énonciation est jamais parfaitement masculine ou féminine ou peu importe.
Oui, il n'y a pas nécessairement la possibilité ou même l'obligation de localiser une persona qui serait à définir.
En fait, j'arrive même pas à localiser les personas. Je vais être franche avec vous. J'arrive même pas à voir comment on peut différencier telle figure de telle autre figure. Pour moi, en fait, c'est ça. Pour moi, la voix, c'est ce tronc commun. Puis on peut inventer n'importe quoi. On peut dire qu'est-ce qu'on veut de ces figurations-là. Il y a toujours la même voix. Même si le son change, c'est la même voix.
C'est peut-être ça qui est impressionnant aussi, c'est de se dire que de cette voix-là génère différentes formes d'interprétation. Moi, je pense à, par exemple, le moment où... au début des années 70, où il change complètement son timbre.
Ben ouais.
Ben, c'est fascinant de se dire que ça vient finalement de la même personne, puis il y a une multiplicité de personas, mais qui sont indéfinissables, qu'on ne peut pas, disons, qualifier de personnages, mais qui génèrent quand même un timbre qui est complètement différent. Puis ça, c'est quelque chose qui est revenu dans les derniers épisodes avec les dernières personnes avec qui on a parlé, comment il y avait peut-être deux formes d'écoute de la musique, puis de la musique de Bob Dylan particulièrement.
Mm-hmm.
Une forme qui serait celle d'une chanson signe, d'une chanson face à laquelle on devrait écouter les paroles,
une
forme de compréhension, puis une qui relèverait d'une chanson timbre.
Ah, c'est intéressant, ouais.
Ce qui nous atteint, c'est peut-être un timbre de voix. Puis ça, c'est très présent dans certaines époques de Dylan.
Ouais.
Où même sa voix ou son timbre de voix semble dissimuler la signification de ses paroles.
Absolument. Moi aussi, j'ai souvent noté ça. On est presque dans le bruit des fois. C'est dans quelque chose qui est de l'ordre du bruit. Puis en même temps, on le reconnaît tout le temps. Fait que ses voix sont toujours... Même au sein d'une même chanson, il peut... Des fois, j'ai l'impression qu'il se chicane avec lui-même, tu sais, tellement... Même dans un même univers de sonore, sa voix va changer, mais... Je sais pas, on le reconnaît, c'est... Fait qu'est-ce que c'est si différent? Est-ce que c'est pas lui, tu sais?
C'est peut-être ça, la forme de familiarité qu'on sentait déjà dès le départ.
C'est vrai, ouais.
Ben, merci, Rebecca, pour cette
merci
exploration-là.
À vous.
On va peut-être juste faire un petit mouvement, puis on va pouvoir continuer sur ces réflexions-là. Alors, je vais profiter justement des questions sur l'intelligibilité musicale, sur cette création de sens en musique, pour qu'on se penche peut-être sur ta posture, Glenda, en souhaitant faire le portrait d'une dynamique d'écoute en tant que locutrice étrangère de l'anglais. Alors, bonjour, Glenda. Est-ce que tu voudrais peut-être d'abord nous décrire ta relation à Dylan, à cette rencontre-là?
Oui, bien sûr. Bonjour. Je peux commencer aussi, ça me touche beaucoup tout ce que Rebecca a dit, parce que je vais peut-être revenir sur certains aspects. Mais d'abord, je voudrais parler sur ma propre relation avec Dylan, qui a commencé avec ses projets de recherche. Avant, je connaissais déjà quelques chansons, mais peut-être sans savoir que Dylan, c'était l'auteur. Dans mon cercle à Laval, on chantait beaucoup, par exemple, « Knocking on Heaven's Doors » ou « bon. Blowing in the Wind », le classique, mais je n'associais pas toujours le nom Bob Dylan avec ses chansons. Ce sont des chansons qu'on répétait, je chantais. Mais c'était avec ce projet de recherche sur les techniques de l'oralité que je commence ma vraie immersion dans l'univers dylanesque. Et je le commence d'une façon un peu particulière parce que je me rapproche à Dylan à travers l'étude. Alors, je commence à lire sur Dylan, je commence à lire sur l'interprétation des chansons, c'est ce que ces chansons veulent dire, la façon dont il fait la composition, l'orchestration. Et après, je vais, par curiosité, je vais chercher la chanson. Alors, d'abord, j'ai cette compréhension, disons, intellectuelle, et après, j'ai l'expérience pratique. Et il se passe là quelque chose de drôle parce que avec la première chanson que j'écoutais de cette façon, c'était Only a Pound in Their Game. Et j'avais tout lu, j'étais très curieuse, ça semble une chanson très intéressante, je vais l'écouter, je vais la chercher, je sais déjà de quoi elle traite cette chanson, après je l'écoute. Et je ne peux pas dire que je comprends chaque phrase. Je sais déjà la thématique et je capte comme quelques mots qui viennent. Après, je la répète dans ma tête, qu'elle vient, elle revient et la mélodie, et ça colle là et nanana, et ça, elle reste. Mais je n'ai pas compris encore toutes les phrases jusqu'après que j'essaye de faire un karaoké. Je dois même chercher quelques mots dans le dictionnaire. Il y a quelques passages que je dois comme relire pour dire « Ah, il est en train de dire ça, il est en train de construire la phrase de cette façon. » Et c'est alors après, dans un troisième moment, que je comprends vraiment, au moins dans un sens littéraire, tout ce que Dylan disait dans la chanson. Alors, ce sont comme trois étapes dans la réception. C'est juste à la fin que je peux dire que j'ai capté la poésie, disons, des chansons de Dylan. Alors, je pense que cette expérience a fait de sorte que j'avais un intérêt plus marqué pour les textes théoriques parmi tous les textes que j'étais en train de lire, pour ce texte qui disait, oui, Dylan, il faut le reconnaître en tant qu'un grand poète, parce qu'il y a la poésie dans ses chansons, mais il y a quelque chose d'autre. Alors, dans cette approche, j'étais plus intéressée. L'étude de la musique de Dylan, alors, a ouvert cette perspective de me demander comment est-ce que ça marche une chanson, pourquoi cette mélodie elle accroche dans ma tête même si je ne la comprends pas complètement, même parce que c'est l'anglais, parce que il faut que peut-être j'ai lu les paroles, que je cherche quelques mots dans le dictionnaire, mais quand même la chanson elle reste dans mon cerveau et je la répète et je l'aime déjà. Alors c'était un phénomène qui commence à me passionner et par chance j'étais en train de lire sur ça. Alors c'était une expérience très intéressante que j'ai consulté le texte au moment que j'avais l'expérience de découvrir Dylan.
A bullet from the back of a bush took Medgar Evers' blood. A finger fired the trigger to his name. A handle hit out in the dark. A hand set the spark. Two eyes took the aim. Behind a man's brain, but he can't be blamed. He's only a pawn in their game.
Quand tu dis que tu avais quelque chose qui te restait en tête, est-ce que c'était les paroles, est-ce que c'était la mélodie?
Tu sais, parfois c'était une phrase, mais parfois c'était comme il y avait des blancs dans une phrase, quelques paroles, quelques mots. Et après, mon cerveau le complète avec nanana, nanana, quelque chose comme ça. Je pense que, bon, on a tous écouté des chansons dans une autre langue et pas forcément l'anglais. Je pense que ça, c'est une chose qui revient souvent.
Puis, j'ai l'impression, comme tu disais, qu'il y a une espèce de dualité entre cette vision très, très théorique de Dylan qui cherche à la compréhension, qui est exactement ce dont on discutait, Rebecca. Puis, cette forme d'écoute-là, celle qui est le verre d'oreille qui te vient en tête, qui peut pas, que tu peux pas retirer, ou même on a le réflexe d'écouter la chanson de nouveau pour comme purger ou exorciser cette présence-là, puis qui relève peut-être d'une écoute plus affective. Est-ce que pour toi, c'est des choses qui sont contradictoires ou est-ce que tu as réussi à trouver une forme de façon de ramener ça à la théorie, ta relation à l'écoute des chansons?
Oui, tout à fait, parce que ce n'était pas contradictoire. Je disais que c'était intéressant que j'étudiais les phénomènes de façon théorique dans le même temps que j'écoutais les chansons de Dylan. Et alors, il y avait ces textes qui m'ont plus impressionné dans ce moment-là, par exemple de Keith Nimby, qui défend que même si Dylan a des paroles très réussies, ses œuvres sont encore une autre chose que la poésie ou la littérature. Et défend ça dans un texte qui s'appelle Not Just Literature. Ce sont les approches qui me parlaient le plus, ou comme celle de Betsy Bowden in Performance Literature, Timothy Hampton et How the Song Works. C'était comme la question que je me posais. Comment est-ce que ça marche, la chanson? Comment est-ce que cette chose que c'est la littérature, et on aime la littérature parce qu'on étudie la littérature, mais comment est-ce que ça marche dans un autre niveau que je ne comprenais pas complètement? Alors, ces auteurs ne nient pas les caractères littéraires des paroles, l'intertextualité, parce qu'il y a la mention des grands classiques, etc. Mais ils défendent aussi qu'il y a quelque chose d'autre dans les chansons de Dylan, et c'est quelque chose d'autre que j'essayais de comprendre. Alors, il y avait sept textes spécifiquement de Tadeusz Rajpal, c'est un chercheur polonais que j'ai particulièrement aimé parce qu'il a décrit un peu l'expérience que j'étais en train de vivre. Il parle de la notion qu'il emprunte à l'anthropologue Lawrence Kramer de « cultural remove » dans un article qu'il appelle « Bob Dylan and Invasion of Mexico ». Alors, il parle comment, pour beaucoup de temps, dans la chanson « Slow Train », il s'est fait toute une explication de la chanson sur une mauvaise compréhension d'une phrase. Dans un moment où Dylan disait « Man, ego is inflated », il comprenait « Mexico is invaded ». Their laws are outdated. Alors, il a compris pourquoi Dylan parle là du Mexique, pourquoi l'invasion du Mexique est importante dans cette chanson. Il s'est fait toute l'explication et après, il a découvert, des ans plus tard, qu'il disait une autre chose. Alors, il a ah bon. Mais la chanson marche quand même.
Into my companion, are they lost or are they found? Have they counted the cost it takes to bring down all the earthly principles they're gonna have to abandon?
Alors, avec cet exemple personnel, il arrive à parler de comment est-ce que le succès de Dylan ne se base pas seulement dans la qualité poétique de ce texte, comme on parlait, mais aussi par la mobilisation des ressources vocales, des techniques, des inflexions, etc., auxquelles l'auditeur étranger est plus exposé, parce qu'il est exposé directement, parce que déjà il y a un rapport, il y a une prise de distance par rapport à la langue. Alors on est plus exposé, disons, à toutes ces techniques vocales, à tout ce travail qu'il fait avec les instruments, les pauses. Ça nous touche directement et on comprend tout de suite qu'il y a quelque chose d'autre que la poésie dans cette chanson. Quand même, ça ne veut pas dire, et c'était une chose aussi que j'appréciais dans la lecture, dans les théoriciens que j'ai lissé, ça ne veut pas dire que la poésie n'importe pas, que peu importe, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas un travail lyrique remarquable, ça veut juste dire que le processus de la réception est complexe. Alors et que Dylan embrasse cette complexité, il aime aussi cette ambiguïté de mettre plusieurs sens, comme on disait tout à l'heure, et plusieurs couches de signification dans ses chansons. Il va avoir cette dimension de paroles. Et après, je me rendais compte, quand j'ai revenu sur la chanson, j'ai lissé et j'ai arrivé à un autre niveau de la compréhension. Mais il y a aussi tout ce qu'il fait avec sa voix, avec les instruments musicaux, avec la façon dont il prononce certains mots. Et ça fait partie aussi de la réception et de la façon dont les auditeurs vont s'approprier des chansons. Alors, c'est cette reconnaissance de la complexité présente toujours dans les chansons de Dylan, mais aussi dans la façon dont on fait la réception d'une œuvre d'art en général, que j'ai beaucoup aimé de ce texte que j'étais en train de lire.
Je trouve ça vraiment fascinant comment tout ce genre de discours autour de Dylan et ta position aussi permet de recentrer notre analyse au niveau de l'expérience, puis pas au niveau d'une forme d'intentionnalité de tout ce que Dylan serait capable de faire ou de mettre ou d'inscrire comme sens à même les paroles de ses chansons, ce qui est souvent ce que moi je lis dans des études sur Dylan, comment il réussit à faire de ce texte ou faire de cette chanson une espèce de mise en scène tout à fait contrôlée. Mais là, juste par la possibilité de mal comprendre ou d'avoir une autre forme d'écoute, on est dans une relation à la chanson qui, encore une fois, laisse tomber un peu la figure de Dylan en tant que figure un peu messianique, qui aurait tous les secrets, qui serait dans une contrôle total, puis qui fait écho à peut-être la première rencontre que tu avais avec ces chansons, qui était celle de les connaître, de pouvoir les chanter sans savoir de qui ça venait.
Oui, tout à fait. Mais il y a quand même peut-être dans l'effet de disparaître, comme de not being there, comme en faisant référence à son film, il y a une façon de, il y a une ingéniosité quand même peut-être de Dylan dans cette façon de s'approprier après de ses chansons. Je parle un peu de la notion de l'ambiguïté que ce moment me vient à la tête. Betsy Bowden, il défend que les textes de Dylan sont, il veut que soient ambigu, parce que c'est dans cette ambiguïté qui va lui permettre à lui-même de revenir après pour changer juste avec la prononciation différente et avec, en faisant du bruit, comme disait Rebecca tout à l'heure, sur un mot, en changeant peut-être les rapports de pause, musicalité, ça va changer complètement le sens d'une chanson. Comme par exemple, oh, quand c'est une version de Dylan ou une version de quelqu'un d'autre, ça peut changer parce que c'est déjà, le texte permet déjà cette ouverture. Et ce sont des textes, propose Bowden, sont des textes déjà conçus avec cette ouverture dedans. Alors, il y a une analyse que j'ai beaucoup aimée sur la chanson Her Rain's Gonna Fall, où on peut voir comme d'après la prononciation, l'intonation qu'on donne à certains mots, ça pourrait être devenir une chanson pessimiste, une chanson optimiste, comme on a vu avec Just Like a Woman. Alors, il y a cette multiplicité dans les chansons de Dylan, que peut-être aussi, dans laquelle peut-être Dylan aussi participe. En même temps, c'est un phénomène de la réception qu'on ne peut pas nier, évidemment.
Oui, et puis Dylan lui-même, il refusait vraiment cette espèce de figure d'auteur contestataire avec des chansons qui auraient un sens très, très fixé. C'est vrai qu'il y a l'impression de chansons ou de textes qui possèdent des failles, dont les interprétations sont elles-mêmes faillibles ou un peu chambranlantes. Puis c'est peut-être pas un hasard que la première interprétation, l'enregistrement de Just Like a Woman qui est sur l'album, ce soit celui qui soit le moins musical, le plus lu, avec des drôles de moments où il semble pas être sur le temps.
Oui, absolument. C'est comme si aussi, pour rebondir sur ce que tu dis, Glenda, comme si même dans ses interprétations, il anticipe déjà la reprise à venir, tu sais.
Oui, c'est ça.
Le texte le fait, mais la musique aussi, finalement. Puis, dans un cas comme Just Like a Woman, qui est une chanson quasiment archétypale d'un point de vue musical, d'un point de vue harmonique, c'est des accords qui sont super simples, il reprend des formes qui sont super classiques, il ne réinvente pas du tout, mais ça crée une espèce de squelette qui appelle déjà à être revisité, si on veut. Fait qu'il y a comme ce double... Cette double couche de reprise, ouais, ou d'ouverture, en tout cas.
C'est comme si c'était des chansons aussi, puis peut-être que ça explique l'intérêt théorique par rapport à Dylan, mais qui attendait d'être rendu intelligible.
Ouais.
Beaucoup plus que d'autres chansons qui pourraient s'être un sens vraiment beaucoup plus strict. C'est peut-être aussi ce qui explique la posture de Dylan par rapport à certaines chansons qui ont été vraiment fixées dès le départ, au début de sa carrière, par exemple, avec ses protest songs. Puis son désir de s'en éloigner, puis de les rendre finalement disponibles à nouveau. Je me demande aussi comment, dans ce cas-là, réfléchir l'intelligibilité ou le rapport à la théorie ou ce qu'on peut apposer à un langage qui est musical, qui est peut-être loin de notre relation à la littérature, à ce qu'on peut lire dans un texte, mais à la musique en tant que telle. Et je ne sais pas pour vous, puis peut-être pour toi aussi, Rebecca, en tant que musicienne. Je ne sais pas si tu es musicienne aussi, Glenda.
Non, pas du tout.
Mais quelle est votre relation à ce rapport au sens dans l'interprétation d'une chanson?
C'est une grosse question, Thomas. Mais mon rapport... J'ai de la misère avec cette idée de sens. Je pense que le sens appartient tout le temps à la réception. J'ai de la misère à même croire que Dylan, quand il écrit, il se dit qu'il ne veut pas mettre de sens. J'ai même de la misère à admettre ça. Fait que je sais pas.
Peut-être un peu double aussi. Il y a,
ouais.
On peut pas nier que quand on crée aussi, quand on fait une création, on met quelque chose là qu'on peut appeler du sens, mais ça n'empêche pas que dans les moments de la réception, on va s'approprier de ce sens-là et on va les réécrire tout le temps.
Ouais. Puis il y a une différence, je pense aussi, peut-être entre vouloir mettre un sens clair, tu sais, de dire moi je veux que mon œuvre. Ça dit ça, ou se laisser guider par une intuition, disons, une expérience sensorielle qu'on veut rendre, ou peu importe, puis être tout à fait ouvert à ce que quelque chose nous échappe, même dans le geste de création à la base.
Oui, évidemment.
Puis je pense qu'il y a ça définitivement dans l'écriture ou dans la composition de Dylan, cette ouverture à ce que les autres fassent qu'est-ce qu'ils veulent avec ce matériel-là. Ouais.
Mais c'est peut-être ce qui les rend disponibles, justement, des renversements, comme on a pu le voir chez Nina Simone, chez Charlotte Gainsbourg. Je lisais un article de Katrina Forrester qui portait sur des recherches qu'elle faisait, je pense, au début de la pandémie, puis où elle est tombée. Je pense qu'elle était en train de faire des recherches sur des groupes féministes à Atlanta. Puis elle s'est rendue compte qu'il y en avait un de ces groupes-là qui sortait des petits pamphlets qui étaient toujours des formes d'interprétation, de réécriture de chansons de Bob Dylan, dont une qui était « Just Like a Woman », où elle pouvait lire « Join the movement which is demanding emancipation, just like a woman
». C'est extraordinaire, ça.
Oui, c'est bon, ça. Ouais.
Puis, c'est comme si ça amalgamait tout à la fois la référence au discours misogyne qui était présent dans la chanson, puis la possibilité de son renversement.
Oui.
Puis ce qui permet aussi de renverser cette figure de Dylan en tant que créateur.
Puis elle est là, la gentilité, finalement. Elle est là, en tout cas, cette possibilité-là de s'approprier du matériel problématique, tu sais. C'est ça que j'aime.
Oui, dans une forme de réinterprétation encore.
J'aime beaucoup aussi l'humour. L'humour pour contester, j'adore. C'est très drôle, ça.
Sinon, je pense qu'on va clore ici. Merci beaucoup, Rebecca. Merci, Glenda. C'est un plaisir de renverser un peu cette figure de Dylan avec vous, d'explorer nos relations à l'interprétation.
À toi.
Merci à toi.
Just like a woman, yes, she does, and she makes love just like a woman, and she aches just like a woman, and she breaks like a little girl.